à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, dans Les Faramineux, nous allons parler avec Luz Bélanger, du trio Luz Bélanger, qui sera avec nous pour nous parler de son nouvel album « J'ai besoin de magnifique ». Porte bien son nom. En deuxième partie d'émission, nous aurons Eva Meizen qui sera avec nous pour sa chronique des stupidités pour ceux qui en ont déjà l'habitude. Pour ceux qui arrivent juste et qui ne connaissent pas encore, ben, écoutez, vous allez voir, elle nous rend beaucoup plus intelligente qu'on ne l'imagine. Voilà. Donc, à tout de suite. Pour l'instant, on part avec la chanson-titre du trio Luz Bélanger, « J'ai besoin de magnifique ».
Tu dors et moi j'écris, il était une fois. J'ai besoin de magnifique. Je discute avec mon café de tous ces catastrophiques. Rien d'aller bien dans ce monde en miettes de pain. Pourtant dans ma thoracique, je vois un petit train qui avance avec les roses idées des longues journées. Il était une fois. J'ai besoin de magnifique. Et moi j'écris, et c'est ce que j'ai choisi. Pour le papa, thank you.
Et nous sommes avec Luce Bélanger. Bonjour Luce.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, merci. Donc, j'ai besoin de Magnifique. Quel beau morceau et puis quel beau titre. Alors, même si l'écriture a été faite par justement des invités là-dedans pour ces 8 pièces, qu'elles ont été composées par d'autres, c'était quoi le « J'ai besoin de Magnifique » ?
Ben, en fait, c'est venu à la toute fin, ce titre-là. Pendant longtemps, le projet avait un autre titre. Ça, c'était « Entre toi et moi », puis c'est vraiment démarré du désir de collaborer avec des auteurs. Donc, moi, je fais... Le but, c'était encore de composer la musique, mais je voulais m'entourer. Puis, à l'extérieur de mon trio, ces dernières années, j'ai collaboré sur d'autres projets, puis je me faisais mettre des balises, finalement. Je travaillais avec une comédienne qui me confiait des textes ou bien avec une psychiatrienne dans un show de performance. Puis, à chaque fois, j'avais... des contraintes créatives, c'était doublement fluide pour moi au niveau de la création. Donc, j'avais envie de plonger là-dedans, de m'entourer de paroliers d'ici. Donc, c'était un petit peu ça l'idée de départ. Et c'est à la toute fin, quand j'étais en studio en décembre passé, que j'écoutais les pièces que j'avais collectionnées, récoltées, qu'on avait travaillées avec amour. Là, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à l'album, à ce qu'il allait être. Et là, je voyais, en fait, 6 visions du monde. Il y a 8 pièces, mais il y a 6 auteurs. Donc, 6 styles d'écriture, visions sur le monde différentes qui sont toutes, je pense, actuelles. En fait, là, ça fait un album qui est quand même dans l'air du temps. Puis je regardais ça. Il y a beaucoup de zones d'ombre, peut-être, dans cet album-là. Il y a quand même une certaine densité dans certaines chansons. Puis en même temps, je voyais la lumière qui passait un petit peu partout. Et c'est là que ça m'est venu. Je me suis dit, c'est ça. Il est là, le magnifique. La beauté, je pense, elle est dans les contrastes. Oui. Et puis, c'est de là que je me suis dit, OK. Ben, ce titre-là, vous venez d'entendre un texte de Marie-Ève Bélanger, la formulation aussi, je la trouvais vraiment, vraiment... jolie, puis je trouvais que ça résumait l'album qu'on venait de créer en quelque sorte.
C'est général, on a tous besoin de Magnifique. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'on vient de passer, qui a été long, qui a été prenant, qui a été difficile. Maintenant, on a besoin de Magnifique. Donc, ça venait bien, c'était comme une réponse à ce qu'on vient de vivre.
Oui, c'en était une pour moi aussi. Je l'ai vécu comme ça aussi, un retour dans le local de répétition avec la musique, donc non plus chacun chez soi, à la maison,
oui.
Mais le retour en communauté, c'est comme une bouffée d'air frais. Donc, je pense que voilà, on en avait tous besoin, on en a tous besoin.
comment c'est fait le choix des auteurs?
J'avais envie de textes qui sonnent, des textes qui sont musiques. J'ai toujours été vraiment intriguée puis passionnée par le son des mots. Donc, des textes qu'on lit à haute voix puis qui sont déjà musiques.
Oui.
Puis en plus de ça, j'avais aussi envie d'avoir une palette assez diversifié. Il y a des textes qui sont en français un peu plus soutenus, il y en a qui sont en français un peu plus près de la langue parlée, des courts, des longs, s'il y en a en prose, il y en a dans une forme un peu plus traditionnelle. Donc, je voulais avoir cette diversité-là. Donc, j'ai cogné à différentes portes. Puis, c'est ça, celles qui se sont ouvertes, je vais les nommer, ces fameux auteurs, parce que je leur dois beaucoup, sont vraiment au cœur du projet. Donc, Marie-Ève Bélanger, qui a composé la pièce qu'on vient d'entendre, Marie-André Lemieux, Geneviève Baudet, Stanley Péan, David Portelance et Julien Gagné.
Ah oui, c'est des beaux artistes. Et puis, est-ce que dans leur écriture... ça vous a tout de suite parlé quand on demande à quelqu'un d'écrire et qu'après on doit mettre ses mots dans sa bouche, vous le chantez. Est-ce qu'il faut être en complet accord avec ça ou est-ce qu'il y a eu des quelques petits changements qui ont été faits ou le texte a été pris intégral?
Oh mon Dieu, il y a un mot, je pense, dans une chanson.
Donc, on peut dire non, tout a été intégral.
Oui, c'est pas mal des intégrales. C'est sûr qu'avec certains auteurs, j'ai eu l'embarras du choix, en ce sens qu'ils m'ont approché avec différents textes, puis ils m'ont dit « choisis ce qui te plaît là-dedans ». Puis, un autre truc intéressant qui s'est passé aussi, c'est que je me suis fait offrir un texte un moment donné. Puis, au départ, j'étais un peu surprise. Je me suis dit, oh, il y avait une certaine densité. Puis, en fait, c'est la chanson « Pleurer de rire » qui traite de, d'un sujet quand même assez dense, une relation tortueuse, puis un petit peu d'abus et tout ça. Puis, naturellement, si j'avais, en fait, parce que, avant cet album-là, sur mon précédent album, c'est moi qui composais les textes. Donc, naturellement, moi, je sais que j'aurais jamais été dans ces eaux-là. Donc, il y avait la surprise. Puis, au final, j'ai plongé. Puis, c'est une des pièces que je préfère, en fait, de l'album. Un peu comme un comédien qui jamais va avoir vécu tout ce qu'il joue, mais qui fait juste plonger dans toutes sortes d'univers, puis qui joue finalement, qui voyage à travers la vie des autres, ben ça m'a ouvert cette possibilité-là, puis c'est ça. Ça a donné des coups de cœur inespérés finalement de mon côté.
Alors, l'autre chanson qu'on va entendre là, que j'ai choisie, c'est pas celle dont vous venez de parler, mais j'ai choisi « Douce guerre ». On l'écoute et puis on en parle tout de suite après, d'accord?
Parfait.
À tout de suite.
À tout de suite.
À chaque dernière cloche, c'était une douce guerre aux trêves continuelles. On faisait la bravade entre quand nos semelles et en mangeant la terre en guise de souvenir. Sur les cheveux des arbres, on se moquait du vide, les cicatrices fières ont goûté à l'alcool. On parlait de courage, d'une langue candide, toujours un peu timide de la dernière parole. Ceux qui regardent hier avec des yeux rieurs partagent les mêmes puissances, on est du même cœur. Ne sois pas triste, ma sœur. Regarde à la fenêtre, notre champ de bataille a changé de vie.
Et voilà, alors Luce Bélanger, on en parle de cette douce guerre.
Oui.
Comment a-t-elle été créée? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente?
C'est Geneviève Baudet qui a écrit ça. Et il y a certains auteurs que je connaissais, puis d'autres à peu près pas. Geneviève, je la connais en oblique finalement, parce qu'elle a travaillé avec ma sœur. Moi, je côtoie son frère. Bon, le monde est petit. Donc, je sais pas si elle s'est inspirée de sa vie ou de la mienne, mais pour moi, c'est toutes les deux, je pense, on se retrouve à quelque part là-dedans, dans cette idée de fratrie.
Oui.
La famille, les frères, les sœurs. Elle m'a offert ça, puis celui-là, ce texte-là, je pense qu'il m'a vraiment collé à la peau. Je l'ai adopté automatiquement parce que ça parlait de ce lien-là qui est si précieux, qui évolue au fil des années, puis qui est encore si présent dans ma vie. Puis sa façon de le mettre en scène, en fait, est vraiment superbe. Donc,
je trouvais ça très beau aussi.
Oui, ça a été aussi facile à mettre en musique. Il y en a des fois qui ont demandé un petit peu plus de boulot, mais je sais que celui-là, ça a comme coulé, puis ça a pas été long, ça a été facile.
Et puis ça parle de quelque chose qui, à moi, en tant que personne, m'a beaucoup manqué depuis 2 ans, c'est le lien. Donc c'était très important de le remettre de l'avant.
Oui, voilà. En effet.
Faire savoir à quel point on en a manqué et à quel point c'est important. Parce qu'on ne voit l'importance des choses que lorsqu'on les a plus.
Et malheureusement. des fois, c'est triste que ce soit comme ça, mais en effet, on a manqué de plusieurs choses, je pense, ces dernières années dans un contexte de pandémie.
Oui, mais je pense aussi que, hormis dans tout ce qu'on a manqué, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de personnes qui avaient conscience de l'importance que peut avoir le lien humain, parce que quand on l'a très facilement, on ne s'en rend pas compte, toujours.
En effet.
Et quand on en est privé, et là on dit « Ah mince !» C'était aussi important que de manger. Oui, c'était aussi important que de manger.
Oui.
Voilà, donc voilà le pourquoi du choix de Douce Guerre. Et lorsqu'on aura terminé cette entrevue, Luce, on partira avec la chanson qui s'appelle « Demain ».
Oui.
Que demain est un autre jour.
Voilà, qui ouvre une plage, qui ouvre une grande, grande porte.
Oui, voilà, c'est ça. On ne sait pas ce que sera demain, mais dans notre présent, on peut changer bien des choses pour que notre demain soit meilleur.
Oui.
Alors, il y a ça aussi. Dans ce deuxième album, au fur et à mesure où j'écoutais les chansons, je voyais comme une comédie musicale qui se développait dans mon esprit. J'avais comme une histoire, des images, des choses. Est-ce que vous l'avez construit dans ce sens-là ou pas?
Non, mais c'est intéressant parce que des fois, j'ai l'impression que chaque pièce est une petite comédie musicale en soi. Après, je les ai pris comme elles venaient, mais ce qui s'est passé quand même, c'est... ce même moment que je vous ai parlé au début de l'entrevue, quand j'ai pris du recul par rapport à tout ce que j'avais en main, je voyais toute la palette d'émotions puis de sujets qui étaient présents dans l'album. Et après, j'ai vraiment fait le choix conscient, en fait, l'ordre des chansons. En 2022, ça veut dire moins de choses que ce que ça voulait dire avant parce qu'on écoute les albums à la pièce. Pendant une liste d'écoute, puis on a pu, ou rarement, on prend le temps de faire l'expérience d'écouter un album, de s'asseoir de la première à la dernière pièce.
C'est vrai.
Mais j'ai vraiment pensé fort au choix des pièces et je les ai placées. Je voulais faire un genre de tunnel, c'est-à-dire on part de quelque chose de très lumineux, puis à un moment donné, on va dans quelque chose qui est vraiment plus dense pendant les pièces au centre de l'album, et à la fin, ça a une autre ouverture sur la lumière. J'ai voulu créer ce parcours-là avec l'enchaînement des pièces. Donc, à quelque part, inconsciemment, si vous avez vécu une genre d'histoire ou de comédie musicale, peut-être c'est que vous avez capté un petit peu de ça.
J'avais l'impression, en tout cas, je voyais des personnages, une vie, quelque chose qui se disait des moments entre deux personnages, donc y compris Douce Guerre aussi, où on pouvait se parler, où il y avait des choses... J'ai senti tout ça, cette espèce de lien, et c'est pour ça que je trouvais ça très, très, très intense à entendre et
Ben, tant
agréable.
mieux, c'est
Voilà.
intéressant.
Donc, avant qu'on se quitte, est-ce que vous vous produisez quelque part? Est-ce qu'on va pouvoir vous entendre bientôt ou pas?
Je travaille là-dessus, en fait, mais je suis aussi dans une phase très. Je prends beaucoup le temps parce que j'ai un petit bébé de 3 mois à la maison.
Oh,
Donc,
félicitations!
merci. Donc, là, j'ai profité du numérique, en fait, avec tout ce que ça implique, là, pour lancer
Oui.
quand même la musique dans l'univers, mais sans qu'il y ait de
De
spectacle à
suivi
court
derrière.
terme.
D'accord.
Donc, je travaille là-dessus pour peut-être plus l'automne, vers la fin de l'année. Puis sinon, je profite et je remplis la chaudière pour la suite. C'est-à-dire, c'est un moment pour moi aussi où est-ce que les choses cheminent dans ma tête. Puis je suis en train de préparer le
Le
prochain,
prochain
finalement,
album.
album. Pas le prochain bébé, le prochain album. C'est en train de prendre forme dans ma tête. Donc, je profite de ça. Puis, retour sur les planches un petit peu plus tard.
D'accord. Alors là, on peut le trouver partout,
À
l'album?
partir de... Oui,
Du
demain.
20, de demain,
Demain,
c'est ça, hein?
c'est lancé officiellement sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Bandcamp, puis sur mon site Internet.
Même pas demain, c'est
Ah,
vendredi. Moi, il m'avait
on est
écrit, c'est demain.
mercredi.
Oui, on est mercredi aujourd'hui.
Bon, je parle la notion du temps. Vendredi 27
27.
mai, c'est là que c'est
Voilà.
lancé officiellement dans l'univers, un petit peu partout sur le web.
Entendu. Eh ben, écoutez, on vous souhaite le meilleur, en espérant ben, vous revoir un jour ici, comme j'avais le plaisir de vous recevoir une fois, il y a déjà quelques années en arrière. Donc,
Oui.
je vous souhaite le meilleur et puis profitez bien de vos deux bébés, et
Oui.
le bébé bébé et l'album.
Oui, merci beaucoup,
Que
merci.
ça se passe bien. Donc, on va se quitter en écoutant demain. Voilà.
C'est parfait.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Profiter de ce temps qui n'est jamais le nôtre, de ce moment loué dans lequel on se fond. À faute de fautifs, je crie à qui la faute. Serions-nous faux fuyants de notre propre fin, sous un soleil brûlant, le réveil est brutal, l'animal. Demain, peut-être demain, je ferai mieux. Demain, seulement demain. J'ouvre les yeux. ce refrain posthume, ce dernier est avoué. À promettre la lune et espérance folle, à permettre l'envol des plumes ensommeillées. Alors c'est pour demain que je pourrai chanter.
Et voilà, donc c'était la chanson Demain de Luce Bélanger. Vous pouvez écouter ce très bel album, J'ai besoin de magnifique. Restez avec nous, dans un moment on se retrouve avec Eva Emeisen et sa chronique des stupidités. Et ne vous laissez pas avoir, chronique des stupidités, très intelligente, faisons confiance à Eva pour ça. Donc restez avec nous, à tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Je suis dans l'avion avec Charlotte Cardin. Si on s'écrase, ouais, ça parle à juste d'elle. Et vu que c'est ça le succès, je fais Paris-Bruxelles dans la même semaine. Oh, I know, yeah, hey. It's gonna be good times. Tendu le kid à la radio Nova. Alors là, du coup, c'est quoi cette life? Don't get high on your own supply.
I wish you told me.
Elle avait besoin d'espace comme une astronaute. Seul ghostwriter dans la vie qui se fait go. Une photo club sur le seul au monde sous la douche. T'as plus comme mes blue jeans, plus high que Louis. Encore 2020, ça part mal la journée. Montréal sans l'été.
Ok, salut, on va finir par l'avoir.
Cette chanson dans ma tête pendant que tu m'expliques que je n'écoute jamais. La musique pour Verdun. Ooh, hey, hey, someone. Now I'm just somebody else. Ooh, hey, hey, hey.
Ok, salut, on finit par l'avoir.
Voilà, on vient d'entendre Clay and Friends qui nous chantait Cardin. Et maintenant, nous ne sommes pas avec Charlotte Cardin, mais nous sommes avec Eva Emeisen. Bonjour Eva.
Bonjour Arlette.
Alors, tu n'as pas entendu dans la présentation du début de l'heure, mais j'ai quand même dit que ta chronique des stupidités nous rendait souvent, assez souvent, même très souvent, intelligents.
Ah oui, donc... on peut se tromper. Hein, ça. Je te pardonne.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Eva?
Bah, de la chronique des stupidités.
Où... Bien sûr, mais qu'y a-t-il dans cette chronique?
Où... Mais c'est, j'ai la réponse, et c'est qui a la question? Donc, me revoilà Arlette, sans trop savoir si j'ai pu regagner mon niveau de stupidité légendaire.
On va dire ça, on t'écoute, on te dit ça après.
Justement, je crois quand même que la disparition de mes effets secondaires, c'est-à-dire, tu sais, tu te souviens de cette soudaine intelligence qui m'avait frappé de plein fouet au cours de ma Covid, est en train train de disparaître et que je retrouve en partie mes facultés d'antan. Enfin, comme tu le dis, nous allons le voir sous peu et toi seul pourras me le dire à la fin de la chronique. On va donc reprendre nos questions traditionnelles. Arlette, saurais-tu me donner la définition d'une esperluette ?
Esperluette ? Ah non, je ne connais pas ce mot-là.
Bah oui, pourtant il est tellement joli que je vais me le garder encore quelques instants et je ne vais pas te donner la réponse tout de suite.
Et en plus, il rime avec Arlette.
Exactement. Et saperlibopette, hein. Prends ce mot, il y a de l'espérance et oui. de l'aluette, ce oui. qui est assez étonnant. Et va pas obligatoirement ensemble. Enfin, moi, je vois pas pourquoi l'aluette, qui est le petit appendice là dans le prolongement du voile du palais qu'on voit pendouiller quand on se regarde de fond de la gorge dans le miroir, permettrait d'espérer quelque chose.
Et espérer bien, sûr, bien chanter, bien parler.
Ah ouais, mais non, mais tu t'en doutes, Arlette, comme d'habitude. J'ai raison. Alors, je te redemande la définition d'une esperluette et je suis sûre que tu n'as toujours pas d'idée.
Je n'ai pas cherché, je me fie complètement à toi, Eva.
Ah, eh ben écoute, moi je me fie au Larousse qui nous dit que c'est le signe abréviatif de « et » formé par la ligature de la lettre « e » et la lettre « t » qu'on appelle aussi le « et » commercial. Oui, tu sais le drôle de signe là qui se trouve en haut de ton clavier près du chiffre 1
oui.
et que tu n'utilises jamais sauf quand tu veux te la péter et que tu écris le nom d'une société américaine où
oui,
au
c'est
milieu
vrai.
On te connaît de tes activités boursières. Tu as soudain besoin d'écrire le nom de Standard & Poor's. Mais oui, tu sais ce petit signe qui ressemble à un S à l'envers traversé par une barre en biais et que tu serais infoutu d'écrire à la main. Alors, cette esperluette, d'où vient-elle ? Serait-elle comme le A commercial ou l'arobase, pour ceux qui auraient suivi d'anciennes chroniques des stupidités, d'une origine très ancienne ? Alors, pour rappel, toi, je n'ai pas besoin, je suis sûr que tu t'en souviens, mais au cas où, on a cru que l'arobase venait de l'arabe arub, en passant par l'espagnol arroba, qui est une ancienne unité de mesure. Mais des linguistes affirment que ce signe, qui date du VIe siècle, est la fusion manuscrite entre le A et le D du latin ad, qui veut dire vert ou chez, et ce signe se serait appelé A. Romba, c'est-à-dire un rond qu'on fait en bas, et on l'aurait ensuite confondu avec le arroba espagnol. On comprend d'ailleurs beaucoup mieux pourquoi on utilise ce A commercial dans les courriels qui donne par exemple Arlette chez Hotmail ou un autre hébergeur. Bon, ce A commercial date du VIe siècle. Ça, c'était pour l'arrobase. Mais l'esperluette, je ne me lasse pas de dire ce mot, résultant de la ligature du « et » et du « t » est hérité de l'époque mérovingienne.
Waouh, dis donc, ça date ?
Mérovingienne, bah c'est ça, moi ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle l'école primaire,
l'histoire,
l'institutrice, les mérovingiens, les rois fainéants. Mais à quelle époque était-ce ? Incapable de m'en souvenir. C'était il y a très très longtemps, ça c'est sûr, mais pour être plus précis, je me souviens seulement qu'on les voyait représentés, allongés, et qu'ils n'en foutaient pas une. Alors...
Mais c'est très fatigant de réfléchir.
C'est sûr. Suspectant que toi, Arlette, tu n'aies pas pu me donner une date, il m'a fallu faire des recherches, non pas dans ma mémoire, mais dans les livres d'histoire qui s'appellent désormais Google, pour trouver que les Mérovingiens vivaient au 7e siècle.
Ah oui,
maintenant qu'on a, ça fait un bail, quoi.
Oui.
Maintenant qu'on a daté les Mérovingiens, on a daté l'esperluette, qui était en fait utilisée, comme pour le aromba, par les copistes médiévaux, qui utilisaient de nombreuses autres abréviations. En l'occurrence, l'esperluette était fréquemment employée pour les termes donc « et », puis aussi pour le « etc. » qu'ils écrivaient « esperluette C ».
D'accord.
Cette esperluette aurait même été considérée comme la 27e lettre de l'alphabet jusqu'au 19e siècle. Tu imagines,
ah oui,
lorsqu'enfant tu récitais l'alphabet, ça aurait été plutôt classe, après le Y et le Z, de terminer par l'Esperluette.
Esperluette, ah oui. Ah oui, j'aurais aimé ça, moi.
Ah bah oui, bah oui, moi aussi, c'est bien pour ça que... Alors, Saperlipopette, pourquoi donc s'appelle-t-elle Esperluette? Ah, donc pour en connaître l'étymologie, il suffit, comme chacun de nous qui l'avons étudié en première langue à l'école, de parler l'occitan. Alors, trêve de plaisanterie, creusons un petit peu et tentons de lire ce mot à la manière occitane et tu verras que le sens se dessine tout doucement. S, père, loup, et. C'est S qui veut dire C, père qui veut dire
deux. Ah non, pour.
Pour. Hein. Loup, loup pescadou, loup pas fraîchou, loup, ça veut dire le. Et et pour le et. Esperluette voudrait donc dire c'est pour le et. C'est l'explication.
Wow.
C'est... Eh ouais, parce que c'est vrai qu'on se demande ce que vient faire Esperluette avec ce symbole. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est un des rares caractères à avoir le même sens dans de nombreuses langues. En français, est beaucoup moins utilisé et même rejeté dans la langue littéraire. Par contre, l'esperluette est d'un usage courant en anglais, et en anglais, ça s'appelle ampersand. Ah oui, on en apprend des choses avec ma chronique des stupidités. Eh bien, l'étymologie du mot anglais ampersand rappelle celle de l'occitan. En fait, c'est and, percé, and, c'est-à-dire littéralement, c'est un et à lui tout seul.
Oh, bah dis donc.
Eh ben oui, hein. Ah, on en apprend des choses quand on m'écoute.
Non, mais c'est vraiment très instructif, plus, là, aujourd'hui.
Eh oui. Et donc, si ma chronique vous a paru encore un peu trop intelligente, n'hésitez pas à faire vos réclamations auprès de l'émission Les Faramineux et de son animatrice Arlette Farah, qui a le tort de faire confiance à n'importe qui pour s'occuper des chroniques des stupidités. Si jamais ma chronique vous a appris quelque chose, vous m'en verrez ravi et ne manquez pas d'en faire la promotion en brillant dans les dîners en ville grâce à l'esperluette et son irremplaçable utilité. Et pour finir, et bien que cela n'ait strictement aucun rapport avec la choucroute, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à François si jamais il nous fait l'honneur de nous écouter. Ce que j'espère.
Oui, joyeux anniversaire François, joyeux anniversaire François, joyeux anniversaire François, joyeux anniversaire. Qui est François?
Oh,
ben, c'est le docteur Baruel pour ceux qui l'ont écouté sur cette radio quand il participait à une émission et c'est aussi l'homme de la vie de Eva. Voilà,
Mais il faut
le dire. Donc Eva, on part en chanson et puis on revient. Tiens, on aurait dû lui faire chanter Joyeux anniversaire. On part avec Luc de la Rochelière qui nous dit Grandir quelque part. Quoique, ça parle un petit peu de ça aussi. Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Grandir quelque part, par un pur hasard dans une petite ville, tranquille, sans feu et sans gloire, entre deux boulevards, quelque part sur une île, docile. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né. Grandir quelque part, au pied d'un rempart, en temps de sang de guerre, se taire. Grandir sans vouloir, grandir sans savoir par l'ombre et la lumière, se faire. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né. Grandir quelque part pour un grand départ sans trop faire de racines, d'épines. Grandir pour grandir, grandir pour partir, qu'une histoire se dessine, s'affirme. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né.
Eva, nous revoici. Alors, écoute, elle était extrêmement complète, ta chronique. Et quand tu m'as parlé des Mérovingiens, ça m'a ramené sur les bancs d'école. Mérovingiens, c'était Clovis.
C'est le début.
Il y avait Clovis. Et puis, il y avait surtout, enfin, en tout cas, sans avoir vraiment étudié ce roi, mais je le connaissais par des chansons d'enfants. Dagobert,
où t'es allé, t'as triché.
Le bon roi Dagobert qui avait mis sa culotte à l'envers. J'ai adoré cette petite chansonnette et j'ai pas fait plus d'études que ça là-dessus. Mais Clovis quand même, si.
Ah oui, bravo. Non, je sais que Clovis, ça s'est arrêté aussi, mais moi j'ai triché parce que j'ai révisé évidemment, que ça s'est arrêté à Charlemagne. Et Charlemagne, c'est qu'il était couronné en 800. Ça, tu sais, c'est comme 1515, Marignan, oui, etc. 800, c'est une date que j'aime bien, parce qu'il n'y a pas trop de chiffres, quoi.
Enfin, Charlemagne, on a dit qu'il avait inventé l'école. Il paraît que ce n'est pas vrai. Alors, eh ben on nous apprend que des
Et puis, en plus, les Mérovingiens, ils ont inventé les sperluettes. Hein. Et qu'est-ce qu'on ferait sans les sperluettes?
Mais alors, comment tu fais, Eva? C'est-à-dire que, est-ce que tu prends le dictionnaire, genre le Larousse, et puis que tu décides de l'ouvrir n'importe où, tu mets ton doigt sur un mot et tu fais la recherche sur ce mot?
Je savais que tu me torturerais. Sous prétexte que je te torture à chaque fois en te demandant une définition,
parce que
que tu te vengerais. Non, c'est en regardant mon clavier, justement, cette fameuse petite... Ce petit rikiki, là, sous le 1, que je connais, enfin, que je vois. Je me suis dit, mais comment ça s'appelle, ça? Tu vois, parce que l'arrobase, on connaît, il y a dièse, les carrés, les tirets, enfin, il y a à peu près tout. Et ça, je me suis dit, mais... comment c'est-il que ça s'appelle? Et alors, quand j'ai vu que ça s'appelait Esperluette, je me suis dit, c'est pas possible de ne pas en faire une chronique, quand même.
Ah bah oui, non, mais d'accord, mais c'est parce que je me demandais ce que dans ton cerveau tordu, tu avais été chercher pour avoir tout ça, parce que c'est un mot, d'abord, moi, personnellement, je l'avoue, je l'ai jamais entendu.
Moi non plus, je te rassure.
Il y a des mots, des fois, tu sais, les gens, il y a certaines personnes qui en ont déjà entendu parler ou lu à travers un livre, parce que finalement... tout ce qui fait la beauté de la langue française, pour beaucoup, je l'ai lu à travers des livres.
C'est vrai.
Ce que j'ai appris. Et pas toujours, je vous rassure, hein, pas toujours, j'ai appris des tas de choses avec les livres d'Agatha Christie, par exemple.
Ou avec moi, avec des bandes dessinées.
Ou avec des bandes dessinées, ou avec d'autres choses. Donc, c'est pas toujours des livres d'un intellectuel extraordinaire. Mais n'empêche que ça nous apprend. J'ai plus appris le français à travers les livres qu'à l'école. Voilà.
Ben voilà, mais il te manquait quelque chose quand même.
Ah, bah oui, parce que Esperluette, là, jamais. Maintenant, je le saurais. En tout cas, je trouvais qu'il rimait avec mon prénom, ça allait bien.
Exactement. Exactement. Et sans moi, tu n'aurais jamais pensé, même à chercher. Tu vois ? Bon, d'accord, non. Tu t'en serais pas senti ni mieux ni moins bien.
Je comprends.
Peut-être même mieux. Ouais. Tu vois ? Mais quand même, je sais pas, moi, je te vois bien pouvoir dire ah oui, c'est standard, Éperluette, pourze. Hein.
N'empêche que c'est bien d'avoir fait la recherche là-dessus. Mais quand tu m'as parlé des Mérovingiens, tu m'as complètement décalé. Tu m'as ramené sur les bancs d'école. J'ai fait, mon Dieu, les Mérovingiens. À part Clovis. Donc après, c'était le seul dont je me souvenais. Après, j'ai regardé. Puis j'ai vu qu'effectivement, il y avait Dagobert. Et je me suis dit, oui, c'est vrai.
Tu t'es dit, mais oui, je me souviens de Dagobert pour une seule raison.
C'est bien sûr.
C'est ça, je ne sais pas ce qu'il a fait dans la vie d'Agobert, à part mettre sa culotte à l'envers, et que le bon Saint-Éloi lui a dit au mon roi. Hein. sinon, je ne sais pas, il n'a pas laissé beaucoup d'autres marques, en tout cas dans ma mémoire.
Je ne sais pas non plus, faudrait peut-être refaire l'histoire, parce que ce n'est pas possible que ce roi n'ait pas fait quelque chose de sa vie, à part se faire ridiculiser dans une chanson enfantine. Mais qui dit enfantine, c'était peut-être d'ailleurs... c'était d'ailleurs peut-être à l'époque certains personnages, tu sais, qui se moquait des rois et qui faisait des textes. Et ce n'était pas du tout une chanson enfantine, mais ça l'est devenu avec le temps.
Oui, parce que je crois qu'on lui prête plusieurs sens, en fait, si je ne m'abuse.
Ah, d'accord.
Que nous ne pourrons pas évoquer ici.
Moi, j'en restais à son pantalon qui était à l'envers et c'est tout. et quand j'étais petite, je chantais ça en riant beaucoup.
C'est ça, tu restais avec ton âme d'enfant. Il faut que tu grandisses, Arlette.
Excusez-moi,
il est temps que tu ouvres les yeux, tu sais.
Excusez-moi.
J'en ai des choses à t'apprendre.
Oh, mais là, ça a été un petit peu... c'était pas complexe, mais c'était quand même extrêmement recherché et documenté.
Oui.
D'ailleurs, même Nicolas m'a regardé d'un air de dire « Moi non plus, je connais pas ce mot-là. » Est-ce pas Nicolas ?
Il était éberlué. Il disait « Je ne comprends rien à ce que dit la dame. »
Pour être honnête, j'avais jamais réalisé qu'il y avait ce signe en dessous du 1.
voilà.
Et donc, j'ai entendu, j'ai regardé les
claviers. T'as été voir.
Il faut comprendre que je suis entouré de 4 claviers. Donc, j'ai regardé les claviers. Je fais « Ah, quoi ? Où ça ?» j'ai vu, ben oui.
Eh oui.
Effectivement,
eh oui.
C'est ça. Donc, belle recherche en tout cas. Bravo pour tout ça.
Eh ben, merci beaucoup.
Écoute,
éberluée par l'esperluette.
Oui, parce que des fois, tu nous racontes, tu nous parles d'un mot, quand même, je connais le mot, même si je connais pas tout le sens complet ou l'histoire. Mais alors là, cette fois, c'était complet.
Ah là, j'étais sûre que je t'aurais.
Le coup des Mérovingiens, là, c'était, tu m'avais perdu. C'était.
Ah oui, j'ai senti un grand blanc. Je t'ai vu partir en voyage comme ça. Tu te retrouvais comme moi sur les bancs d'école. C'est vrai que Mérovingien, c'est tellement évocateur de l'enfance.
Je revois même mon livre d'histoire de l'époque pour te dire.
Oui, moi je voyais les rois fainéants allongés, etc. Qui étaient, c'est bizarre. Hein.
On voit bien, toi ce qui te tentait c'était de rester allongé sans rien faire. Bon, enfin, on ne fera aucune remarque, Eva Maiden. C'est comme ça. Alors, on va arriver ensemble à la fin de cette entrevue. Je ne sais pas si tu as pu entendre l'émission en entier, mais on avait reçu Luce Bélanger du trio Luce Bélanger qui a fait un album jazz avec différents paroliers et qui s'appelle « J'ai besoin de magnifique ». Et ô combien le titre était bien donné, parce que oui, on a tous besoin de magnifique.
Ah oui.
Vraiment, après ce qu'on a vécu, il est temps, quoi. On n'en peut plus. Voilà. Donc, Eva Maiden, merci beaucoup pour ta chronique des stupidités qui nous rend toujours de plus en plus intelligents. Il faut quand même le dire, hein, parce que sans toi, que serait la vie ? On remercie Nicolas Wartmann pour la technique et pour les chansons. Et puis, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Ah, ben ça, c'est gentil. On fait une bonne. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Puis, je vous laisse partir en musique. Et cette fois, on change un peu. On va partir en musique avec quelqu'un que tu connais, Eva. Tu l'as rencontré ici. C'est Michel Robichaud qui nous chante Gisèle. Alors, on part, on va écouter Michel. Et puis moi, je vous dis ben, à demain pour une autre émission. Et puis à bientôt, Eva. Bonne continuation à toi. Et bonne recherche intelligente, comme tu sais si bien les faire. On ne s'en passerait pas. Bye bye.
Bye bye.
Merci à toutes et tous. Passez une excellente soirée. Et puis on dit, ah oui, on se revoit Nicolas demain. Oui, on se revoit demain. Quel plaisir. Allez, bye bye à tous. Au revoir.
Elle veut qu'on porte un casque quand on fait du vélo, mais pas de masque et de rassemblements illégaux. Elle fait pousser des Timbits à tous les coins de rue, et quand on l'invite en entrevue parce qu'il y a trop de sucre dans les aliments, elle dit que les jeunes ont des trucs trop par en avant et qu'ils voient pas les étiquettes. C'est écrit qu'il y a trop de sucre, faut que tu fasses avec mon jeune. Si tu veux manger mieux, déjeune, dîne pis soupe avant ton chiffre de nuit au dépanneur où il y a des grosses allées de gras sucré salé qui t'attendent et te tentent. Mais toi, tu scannes les sortes, fait qu'amène-toi des carottes. Amène-toi-en des carottes. Mais là, s'excuse sur Twitter, c'est pas ça qu'elle voulait dire tout à l'heure. Elle aime les tucs, elle en a une, nous n'avons. En fait, c'est de la faute des parents qui donnent du coke aux enfants. Puis là, ils s'habituent à dose, puis ils capotent sur le glucose. Ça finit en dépendance au Red Bull. Ah, oh, c'est fini la dépendance au Red Bull. On n'en parle plus de la dépendance au Red Bull. Non? Ben, j'ai trouvé où c'est de la faute des pitbulls. Gisèle, elle veut qu'on vote pour elle. Pour elle, on est des Giselles. Potentiel de vote pour des Giselles. Elle aime la Constitution, donc elle n'aime pas ce qui est anticonstitutionnel. Mais ce qu'elle veut faire, elle est d'anticostitu. Et si on ne l'empêche pas d'agir, beaucoup de poissons vont mourir. Oui, mais les poissons meurent de toute façon, mangés par des hommes ou des phoques en surpopulation. Et la surpêche, la pollution, puis faut vider la terre de son pétrole avant que quelqu'un d'autre nous le vole. Mais qu'on en ait assez de plastique, on va en faire des voitures électriques. Mais là, c'est une période de transition, il faut réparer les erreurs de nos prédécesseurs, cacher nos gaffes et préparer les élections. Puis allez-vous me lâcher avec l'environnement? J'ai parrainé un tigre du Bengale récemment. Et pour les scandales politiques, je vais répondre aux critiques. Allez-y, posez-les vos questions. Non, ce fois-là, j'étais pas là. Ah bah oui, mais j'étais là, mais j'écoutais pas. J'écoutais, mais je savais pas. Mais je savais pas que je savais. Bon, bah, c'est fini la période de questions. C'est l'heure de mon repas sur votre bras. Gisèle, elle veut qu'on vote pour elle. Pour elle, on est des Giselles potentielles. De vote pour des Giselles. Avec notre gourou, notre maman, tout en nous gouvernant. Hashtag gouvernement-maman. 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 Gisèle, c'est aussi le chanteur dans un concours qui veut le buzz de l'heure à un vote par jour. La vendeuse de bebel, l'activiste rebelle et le faiseur de recettes de cuisine qui a son magazine. En fait, c'est simple, quand Gisèle cause, c'est parce qu'elle plaide sa cause.
Les fous, ça change pas d'idée. Je l'ai toujours dit, ça.
En nous, c'est la germaine des temps modernes. Elle veut savoir tout et nous montrer que c'est elle qui mène. Et on l'aime quand on a la bédaine pleine de confiance et qu'on pense que la relation est saine et qu'on avance. Mais quand on se retrouve seul, ben on a mieux qu'à faire sa gueule. Parce qu'elle en a de la gueule, Gisèle. Elle peut te pondre une opinion sur un sujet qu'elle connaît pas. Alors imagine quand elle connaît, t'as pas fini de voir son portrait. Elle va le mettre sur tous les réseaux avec ses idéaux en vidéo. Et à force de la voir, tu vas peut-être finir par y croire et lui demander qu'elle devienne ta pote. Mais n'oublie pas qu'elle aime les j'aime et les votes. Gisèle, elle veut qu'on vote pour elle. Pour elle, on est des Giselles potentielles. De vote pour des Giselles. Elle veut qu'on vote pour elle. Pour elle, on est des Giselles potentielles. De vote pour des Giselles.